Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi, ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Vers la fin de la présence militaire de la France au Sahel, le Tchad, dernier pays sahélien abrité des forces françaises, annonce qu'il met fin aux accords de sécurité et de défense avec Paris. Dans le même temps, le président sénégalais déclare que la France va devoir fermer ses bases militaires au Sénégal. Au Liban, la trêve conclue par Israël et le Hezbollah semble tenir aujourd'hui. Pas de violation du cessez-le-feu signalé. Actuellement, les Libanais sont nombreux à rentrer au pays. Reportage à suivre. En France, la menace d'un vote de censure du gouvernement Barnier se précise et Emmanuel Macron visite actuellement Notre-Dame de Paris. Après travaux, la cathédrale est comme refaite à neuf. Deux jours après l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hezbollah, les Libanais continuent de regagner leur domicile. Actuellement, ils sont des milliers sur les routes, occasionnant d'importants embouteillages. En France, la communauté libanaise suit bien sûr la situation de très près. Des Libanais réfugiés, expatriés ou tout simplement bloqués en France attendent depuis des mois de pouvoir rentrer dans leur pays. Chez eux, l'annonce du cessez-le-feu a suscité un nouvel espoir. Reportage de Baptiste Coulon.
Le séjour en France de Jihan devait durer 3 semaines. Parti début septembre avant les bombardements, cette médecin généraliste libanaise n'a jamais pu rentrer à Beyrouth, vol annulé 24 heures avant le départ. 3 mois plus tard, le cessez-le-feu change la donne.
Dès que j'ai entendu parler du cessez-le-feu, comme tous les Libanais, une seule chose m'est venue à l'esprit, redescendre à Beyrouth et fêter Noël avec ma famille. Et c'est exactement ce que je compte faire.
Retrouver les siens, retrouver son emploi aussi.
Le Liban a besoin de tous ces médecins.
Revenir au pays du cèdre, c'est donc un impératif et presque une démarche politique.
Il me semble très important de revenir au Liban parce que c'est un acte d'espoir et de foi en un avenir meilleur pour notre pays.
Mais y a-t-il un espoir que le cessez-le-feu dure et soit respecté ? Jihan se dit partagé entre optimisme et incertitude.
Une partie de moi veut y croire car c'est une grande lueur d'espoir après des mois de souffrance. Mais en même temps, j'ai du mal à être pleinement optimiste. Les souvenirs des accords passés qui se sont effondrés me hantent et j'espère que cette trêve sera bien plus qu'une simple pause temporaire.
Condition obligatoire pour que les vols reprennent. Une seule compagnie les a maintenus, ils sont complets. Jihan promet d'acheter son billet dès que possible.
Baptiste Coulon, Jean-Yves Le Drian, l'envoyé spécial de la France au Liban, vient d'effectuer une visite express à Beyrouth. Avant de repartir, il a souligné l'urgence d'élire un président de la République. Les députés libanais doivent le désigner le 9 janvier prochain. Le pays est dans l'attente d'un nouveau président depuis plus de 2 ans. On en vient à ce coup de théâtre à N'Djamena, capitale du Tchad. C'était hier soir, quelques heures après une visite du chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot. Le Tchad a fait savoir qu'il mettait fin à l'accord de coopération en matière de défense signé avec Paris. Franck Alexandre, bonjour.
Bonjour Gilles.
Le Tchad était, Franck, le dernier point d'ancrage militaire de la France au Sahel et plus largement un maillon clé de sa présence en Afrique.
Oui, en effet, le Tchad est le pays où l'armée française a mené le plus d'opérations extérieures. À lui seul, il était presque le dépositaire de la relation militaire franco-africaine avec ses 3 bases historiques, le camp Kosseï, Fayal Arjo et Abéché, 1000 soldats déployés sur le territoire et une base aérienne à N'Djamena avec plusieurs Mirage 2000, des militaires présents non pas dans le cadre d'une présence permanente, mais d'une opération extérieure, autrefois appelée opération Épervier, mais qui par souci de discrétion ne porte plus de nom aujourd'hui. La France et le Tchad, c'est un lien fort pendant plus de 30 ans avec le président Idriss Déby. C'est avec l'appui de Paris qu'il chasse en 1990 Hissène Habré du pouvoir. La France devient alors un partenaire essentiel, un protecteur. Idriss Déby a d'ailleurs pu compter sur les militaires français pour repousser en 2008 puis en 2019 des offensives rebelles. Après son décès en 2021 au front, son fils Mahamat Idriss Déby, porté au pouvoir, a également pu compter sur la bienveillance de Paris.
Alors cette rupture brutale, hein, publiée sur le compte Facebook du ministère des Affaires étrangères tchadien après le départ de Jean-Noël Barrot. Cette rupture totale, Franck, est donc plus qu'une surprise.
On est tombé de l'armoire, disent de haut gradé, car le ministre français des Affaires étrangères présent hier à N'Djamena n'a pas été informé de vive voix de ce revirement. L'Élysée, Matignon, l'état-major des armées, les services de renseignement sont ce matin en ébullition. Il y a actuellement une réunion de crise à l'Élysée pour comprendre d'où est parti le coup.
Alors, est-ce un retrait pur et simple du millier de militaires français encore présents au Tchad ? Et l'accord va-t-il être remplacé par un autre ?
Eh bien, autant de questions qui restent en suspens à cette heure. Reste que cette décision unilatérale vient mettre à mal la nouvelle stratégie en Afrique portée par Paris, proposant une nouvelle philosophie basée sur des dispositifs légers, réactifs, pour répondre aux besoins des partenaires. Le rapport de Jean-Marie Bockel remis lundi dernier à l'Élysée semble aujourd'hui déjà caduque, car le Sénégal aussi indique ce matin qu'il ne souhaite plus de bases militaires étrangères sur son territoire. L'armée et la diplomatie française subissent donc les événements. Quant à la réaction de l'Élysée, elle se fait attendre.
Franck Alexandre, spécialiste des questions de défense. Merci à vous, Franck. La Géorgie s'enfonce dans la crise post-électorale. Une nouvelle manifestation est prévue cet après-midi dans la capitale de Tbilissi. Hier soir et ce matin, la police anti-émeute a tiré des balles en caoutchouc et fait usage de gaz lacrymogène et de canons à eau. Les manifestants protestent contre la décision du gouvernement, un gouvernement accusé de dérive autoritaire pro-russe, de retarder les efforts d'intégration à l'Union européenne de ce pays du Caucase. En France, la menace d'une motion de censure votée au Parlement contre le gouvernement Barnier, cette menace précise, le gouvernement devrait tomber si la motion est votée par les députés Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen. Or, celle-ci considère que les concessions faites par Michel Barnier sur la taxe sur l'électricité ou les cotisations sociales des entreprises ne sont pas financées, qu'elles aggravent un déficit déjà abyssal. Cela n'est pas acceptable, écrit sur X, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Du Mali à la France, il est resté le gardien des moutons et des chèvres. Et maintenant, rencontre avec Yaya Touré, le berger du parc des Chantraines à Villeneuve-la-Garenne. C'est en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Notre reporter Alexis Bédu a rencontré Yaya Touré dans ce parc, un îlot de verdure situé au milieu des barres d'immeubles.
Depuis la nuit des temps, à chaque berger, il a deux choses. Il a un bâton, il a un couteau. Ça, c'est obligatoire. Dans notre coutume à nous, c'est comme ça. Tu peux ouvrir la porte. Voilà. Avec eux, il faut être devant. Ne sois jamais derrière. Pour qu'ils te suivent.
Il dit qu'il préfère les animaux aux hommes. Yaya Touré a 8 ans quand il conduit son premier troupeau à l'ouest du Mali dans la région de Kay.
Vers Gadiaga.
Il est vêtu d'une longue tenue de berger, orange fluo bariolée, européenne.
Là-bas, je vois que la pousse a commencé à pousser beaucoup. Donc, ils vont manger. C'est comme ça qu'on est en train d'entretenir le parc. Voilà, c'est pour ça qu'un animal dans un enclos, ça m'énerve, j'aime pas.
Yaya Touré arrive en France à 20 ans, au début des années 90. Besoin d'aventure, dit-il. Il fait venir sa femme et enchaîne les petits boulots.
J'ai fait la cuisine, peinture, j'ai fait l'électricité.
Jusqu'à trouver le Graal ici, au parc des Chantraines.
Ça étonne beaucoup, beaucoup de gens. Un berger en plein cœur de Paris, c'est étonnant. Eh, dégage.
Là, il y a la voiture d'un collègue qui essaye de passer, mais...
Quoi, il va venir ? Oui, je sais.
Il est en train de se faire gronder parce qu'il marche trop vite, Yaya Touré.
Ouais. C'est ma mode de marcher parce que chez nous, c'est comme ça. Quand j'étais berger, on partait entre 3 à 4 km de village. On est nomade.
Yaya Touré est resté proche de son pays natal. Il y retourne presque tous les ans, voir sa mère, ses amis, malgré la crise diplomatique entre Bamako et Paris qu'il regrette amèrement.
Franchement, c'est très compliqué. Politiquement, moralement, ça nous fait fatiguer. Un, les billets sont trop chers. Deux, t'as pas de choix.
C'est combien ?
Les billets, c'est pas moins de 1200 euros. Aller-retour. Préférence, il faut un arrangement entre les deux pays. C'est l'État qui s'aime pas, mais pas les populations. Un Français qui part au Mali en tant que citoyen français qui n'est pas dans la politique, il est bienvenu. Là, ça me rappelle ma jeunesse à 100%. Je suis complètement heureux. Malgré, j'aime pas le froid, mais tant que je vois les animaux devant moi, j'ai plus froid.
Voilà pour ce reportage d'Alexis Bédu, non pas au Mali, mais à Villeneuve-la-Garenne, hein, près de Paris. Voilà, l'information continue sur RFI à suivre. Grand reportage, excellente journée.